Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, ça me fait très très plaisir d'accueillir Pika pour un one-shot. One shot sur son jeu qui est sorti, qui s'appelle Inflorenza. On a eu l'honneur de le playtester, de le tester en avance avec la cellule au cours d'un playtest. Et là maintenant, le voici abouti et tu vas nous le présenter aujourd'hui en one shot pour le playtest ultime, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui avec nous pour tester Inflorenza, il y a Brand. Brand, ça va ? Retour sur la cellule ?
Salut, ben, content de revenir pour tester Inflorenza. Je ferai le candide cette fois-ci.
Toujours depuis Toulouse et par Skype, donc désolé s'il y a du lag ou quoi lorsqu'on va discuter avec Brand, il y aura toujours ce problème de décalage. Flavie est avec nous également.
Salut.
La pêche.
La patate.
La banane. Pika, bien sûr, est avec nous.
Salut,
c'est
tout le monde.
À toi, Pika, que je vais donner la parole. Tu as 10 minutes pour nous présenter le jeu. C'est parti.
Ni une de plus, ni une de moins.
Absolument.
Top chrono.
Ok, donc là aujourd'hui, je vais vous présenter Inflorenza, qui est un jeu de rôle où on joue des héros, des salauds et des martyrs dans l'enfer forestier de Milvaux. Alors, Milvaux, c'est l'Europe dans le futur, un futur post-apocalyptique et forestier, c'est-à-dire que ça se passe en Europe et toute l'Europe...
Et Sludgecore,
ouais. Excuse-moi. Enfin, l'étiquette n'est pas reprise dans Inflorenza, parce qu'Inflorenza n'a pas le même ton. Ou alors
d'accord.
Ce serait Sludgecore Renaissance, quoi.
D'accord.
Donc, l'Europe est recouverte par une forêt mutante et hostile, et il reste plus que quelques îlots de civilisation au milieu de tout ça. Et en fait, il y avait déjà un jeu de rôle qui permettait de jouer dans l'univers de Milvaux. C'est le jeu de rôle sombre, en fait, c'est-à-dire que Milvaux est d'abord sorti comme supplément de contexte pour le jeu de rôle sombre, où en fait, dans ce contexte d'Europe forestière, on allait jouer de l'horreur survivaliste. Donc essentiellement du one-shot, avec des personnages qui passeront pas la nuit, hein, pour faire simple. Et donc l'idée d'Inflorenza, c'est de faire un autre jeu de rôle, on garde le même univers, mais avec pas du tout la même focale. Cette fois-ci, on va jouer des personnages vraiment hauts en couleur.
Ouais.
Qui peuvent être vraiment puissants. Enfin, c'est pas obligatoire, hein. C'est pas forcément des super-héros, mais ça peut l'être. C'est-à-dire que c'est un jeu où on peut arrêter une armée d'un simple mot. Si on veut tuer quelqu'un, on n'est pas obligé de sortir son épée. On peut le regarder dans les yeux et lui dire « meurs ». Il y a tout un tas de choses. Voilà, on peut, si tu veux tuer une vingtaine de personnes, tu peux le faire d'un seul jet de dés.
Ouais.
Et l'idée, c'est que dans le jeu, en fait, les personnages vont être transformés. C'est-à-dire que...
Tu parles toujours d'épique paysan ?
C'est de l'horreur épique. On est dans un contexte horrifique. C'est-à-dire le monde est horrible. En fait, c'est l'enfer, quoi. On vit dans une sorte d'enfer, de purgatoire, quoi. Et en fait, ça fait un décor. Après, les personnages sont pas forcément des victimes de films d'horreur, quoi. Comme dans Sombre. Alors, on peut l'être. Il y a des personnages qui vont se faire découper... mutilés, pourchassés et tout, mais des fois ça va être l'inverse. Peut-être que je vois que au terme de ça intéresse Brand des jeux où on peut mutiler des gens. on peut être tout autant une victime qu'un bourreau ou qu'un héros qui va sauver la victime du bourreau et tout. Sauf que le jeu va nous transformer, c'est-à-dire que on peut très bien, on va permuter entre héros, salauds et martyrs.
D'accord.
Alors pour finir avec les intentions. C'est un jeu où en fait
tu peux pas nous parler un petit peu du système aussi rapidement.
Ouais, je
attends, les intentions
ouais,
d'abord,
j'arrive
système
au système.
Excuse-moi.
Donc pour finir avec les intentions, c'est un jeu où en fait pour remporter des victoires, pour obtenir ce qu'on veut, on va devoir sacrifier des choses et c'est ça qui va nous transformer en fait. C'est que il y a de fortes chances que au moment où on obtient ce qu'on veut, eh bien on a perdu beaucoup plus.
Faut penser à Polaris.
Voilà. Et c'est centré sur le personnage. C'est-à-dire que on va principalement s'intéresser à des enjeux qui sont focalisés sur les personnages. Il y a des PNJ quand même, hein, mais si tu veux, mais les PNJ sont là pour servir la soupe au perso. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est centré sur l'histoire. Alors ça, c'est-à-dire que bon, tu peux jouer comme tu joues d'habitude, vraiment en immersion dans ton personnage, mais t'es invité à avoir un petit rétroviseur et des fois essayer de prendre des choix qui servent non pas ton personnage mais plutôt l'histoire, quoi.
D'accord.
Mais bon, ça peut être la volonté du joueur, mais c'est surtout la volonté du système. Le système va apporter des rebondissements forts, voilà, sans même que tu fasses attention, quoi.
D'accord.
Et voilà, donc l'idée, c'est de jouer dans un contexte qui est complètement baroque, hein, puisque on a, il y a du post-apocalyptique, mais il y a aussi des éléments renaissance, des éléments medfan, des éléments steampunk, des éléments de SF complètement débridés. Les personnages se caractérisent par des pouvoirs qui sont complètement dingues. Donc ça, c'est un dernier élément du jeu. Et donc le système, en fait, c'est un système très freeform, c'est-à-dire que au départ ta feuille de personnage est vierge, et en fait au cours du jeu tu obtiens le droit d'écrire des phrases qui sont en fait des traits. Hein, j'appelais ça des phrases parce que je trouve que c'est un peu plus large, quoi. C'est vraiment, grosso modo, c'est ce qui est important, ouais, pour ton personnage ou important pour le joueur, tu le notes, et en fait ça va te filer des dés pour les conflits. Ouais. C'est-à-dire quand tu joues un conflit, plus t'as de phrases qui se rapportent au conflit, plus tu peux jeter, ouais, de dés, quoi.
Donc là, c'est vraiment un système de traits, un peu comme dans Docs, finalement, où on va devoir convoquer des phrases pour lancer des dés.
Alors, je sais pas, je connais pas le système de Docs par cœur, mais là, essentiellement, il y a vraiment que des traits. Il n'y a pas, d'accord, de carac, il n'y a pas de chiffres.
D'accord, ok, ouais.
Voilà. Et autre aspect important du système, c'est un jeu qui est hybride en ce qui concerne le partage des responsabilités. Il y a deux modes de jeu. Il y a le mode carte rouge, où en fait, chaque joueur joue à tour de rôle une scène qui cadre, où en fait, il va avoir beaucoup de contrôle sur sa scène. Alors, les autres joueurs peuvent intervenir, hein, quand même, mettre leur grain de sel, mais c'est quand même vraiment le joueur qui dirige bien sa scène, quoi. Donc, on va dire avec beaucoup de liberté créative pour le joueur au moment de sa scène. Et il y a un autre mode qui s'appelle le mode carte rouge, où en fait il y a un MJ qui s'appelle le confident dans le jeu, c'est lui qui va cadrer, c'est lui qui va imposer au personnage de jouer des conflits quand il veut pas que telle action réussisse automatiquement et tout.
D'accord.
Voilà, ça reste, il y a quand même pas mal de liberté créative, mais quand même ça reste assez cadré par le MJ. J'ai créé deux modes, en fait, parce que je voulais... pour moi, ce qui était important, c'était de respecter les intentions, et c'était pas de fixer un partage de responsabilités bien précise. Je préférais laisser aux joueurs le choix de... Le choix de choisir le mode carte rouge ou carte blanche, selon ce qu'ils préfèrent à leur table, quoi.
Tu penses que le jeu défend les mêmes intentions dans un mode ou dans l'autre?
Ouais.
Exactement, les mêmes.
C'est mon avis, ouais. Tout à fait.
Putain, ça c'est culotté. Ça c'est culotté comme avis, franchement. Ok. On va tester la version. Laquelle version?
Alors, du coup, on va jouer en mode carte blanche. C'est-à-dire que moi, je vais jouer le rôle de MJ. Bah, tout simplement, donc du coup c'est moi qui vous imposerai de lancer des dés quand il y a une adversité que je veux pas que vous triomphez automatiquement.
D'accord. T'as pas dit l'inverse tout à l'heure, que la carte rouge était avec MJ?
Non, carte rouge c'est sans MJ. Enfin, il y a un MJ, mais si tu veux,
j'ai cru que t'avais dit l'inverse.
Non,
en fait.
Okay. Non, il a dit que c'était partagé autour.
Oh là, donc je suis fatigué là.
On va jouer avec une petite règle optionnelle qui s'appelle le jeu sans instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour de jeu. Il n'y a pas de scène cadrée, en fait. Ouais. Donc là, c'est vraiment freestyle, bon, comme dans la plupart des jeux de rôle, en fait. Hein.
D'accord.
Voilà. Et donc, pour le contexte de la partie, on va jouer ce que j'appelle un théâtre de jeu, c'est-à-dire c'est un bac à sable prévu à l'avance,
ouais,
qui s'appelle les chemins de Compostelle. En fait, on est toujours dans le contexte post-apocalyptique, mais en fait, les pèlerinages vers Compostelle ont continué, et on va jouer dans ce cadre-là.
C'est génial. Ok, d'accord. C'est drôle, ça. Voilà.
Bon.
Eh ben, il nous reste plus qu'à y aller. On y va, c'est parti. Bon, fin de la partie. Alors, une partie très courte. en raison du temps qui nous presse. Chaque fois que Pika vient, il doit retourner manger chez sa belle famille qu'on salue au passage. Et donc du coup, en général, il nous fait des parties one shot ultra rapides, assez vives.
Ouais, donc on a joué une heure.
On a joué une heure.
Une petite heure même.
Alors c'est difficile, ça va être difficile d'en parler vraiment très très bien de ce jeu et très à fond du coup, mais moi je pense avoir compris quand même deux trois choses dans ce jeu. Jérôme, d'entrée de jeu, tu disais avant même qu'on ne lance l'enregistrement que tu avais eu des difficultés pour le moins à saisir les règles. Est-ce que tu as des questions à poser avant que ne débute le débriefing ?
Pour très bien, pour faire court sur, ouais, j'ai bien aimé la mise en place.
Ouais.
La façon dont on crée les personnages ou dont t'as lié le groupe. Alors, je sais pas du tout si ça fait partie du jeu, si c'est ta façon à toi de le mener ou pas, j'en sais rien du tout.
Si, je confirme.
Si, parce que j'y ai déjà joué dans l'autre version qui est version multijoueur et 100 mètres de jeu. C'était déjà comme ça.
Absolument. On va en reparler parce que c'est vraiment un des aspects, un des gros points forts du jeu, selon moi aussi.
Alors, moi, j'aime beaucoup la création de groupe. Enfin, c'est mes péchés mignons et du coup, cet aspect-là m'a beaucoup plu.
Ouais.
Sur la résolution de façon générale, pour moi c'était un peu confus. Cela dit, encore une fois, on a joué de façon très courte et moi j'étais par Skype, donc le son n'était pas forcément génial.
Et pour ma charge, en fait, je vous ai fait tester tout le système. C'est-à-dire que en l'occurrence, il y a quasiment plus rien à découvrir sur le jeu, en termes de mécanique, quoi.
Mais c'était
un peu condensé.
Pour moi, c'est
j'ai, et notamment, j'ai rajouté les pouvoirs qui sont une règle avancée, qui compliquent quand même vachement la donne, quoi.
Alors les.
Moi, je me rappelle que quand on avait joué cet été, on avait une bonne heure de mise en place pour apprendre les règles. Où là, on les a mises en place en 10 minutes.
Je pense que pour apprendre le jeu, faut
une bonne heure de mise en place.
Alors, qu'est-ce que t'appelles les pouvoirs ? C'est le D12, c'est ça ? Non.
Non.
Non, c'est quoi les pouvoirs ? Qu'est-ce que t'appelles les pouvoirs ?
En fait,
les pouvoirs de l'Égrégor.
Non, c'est pas ça. Okay. Tu vois, t'as plusieurs phrases, et en fait, tu peux avoir des phrases spéciales qui sont des pouvoirs. En l'occurrence, le personnage de Jérôme, Salvatore.
On va parler de la fiction après. Hein.
Il avait écrit un pouvoir qui, grosso modo, c'était le pouvoir de la compassion, quoi. Il pouvait attirer la compassion sur lui et sur les autres.
Je vous propose de parler un petit peu de la fiction avant de commencer ce débriefing. Alors d'abord, création des personnages, création du groupe. Donc il faut savoir que dans Inforenza, on crée chacun une phrase. Et le premier qui va créer sa phrase est totalement libre, mais le second qui crée la phrase qui va caractériser son personnage le fait en fonction de la phrase du précédent. Donc on a comme ça un jeu de poupée gigogne dans lequel le premier est libre de sa phrase, le deuxième doit englober plus ou moins la phrase de l'autre, et le dernier doit englober la phrase des deux autres.
L'idée, c'est qu'en fait, grosso modo, on construit un organigramme des PJ au départ, quoi.
Voilà, et c'est ça, à mon avis, qui a beaucoup plu à Jérôme, c'est que ces phrases qui se chevauchent les unes les autres crée d'emblée une dynamique de groupe. Il va y avoir un qui va chercher à dominer, un qui va chercher à empêcher l'autre de dominer. Par exemple, ici, c'était le cas.
Pour illustrer, ouais, dis-nous, ouais, dans la fiction, comment c'était là.
Tout à fait. Donc, en l'occurrence, c'est Jérôme qui commence. Tu nous entends bien, Jérôme, ça va ? J'ai l'impression que t'es en chien.
Ouais, je t'entends.
D'accord. Donc, c'est Jérôme qui a commencé, il me semble, en créant le personnage de Salvatore. Alors, est-ce que tu veux nous en parler, Jérôme, de ce personnage ? Comment tu l'as créé ?
D'accord. Là, en fait, on a tiré un thème qui était lié aux pulsions, je crois.
Ouais.
Mmh, c'est une bêtise.
Ouais.
Et en fait, je devais écrire une phrase comprenant le verbe vouloir et qui tournait autour d'une situation initiale qui nous a été donnée, à savoir une caravane qui se promène sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,
voilà,
et qui est arrêté par un cavalier tout de noir vêtu.
Voilà, ça c'est le setting en fait. Hein. C'est une caravane qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui est arrêtée par un cavalier.
Ouais, c'est ce que j'appelle un théâtre. En fait, tu peux jouer de deux façons à Inforenza. Soit tu joues sans théâtre, c'est-à-dire qu'il y a une préparation aucune, ou grosso modo, c'est le premier qui crée son personnage qui va commencer à poser les bases, et puis après on construit autour, on invente complètement le setting au fur et à mesure. Et si tu joues avec un théâtre, en fait, tu poses un setting à l'avance. C'est vraiment un bac à sable, c'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas un scénario du tout, quoi. C'est une situation de départ. Mmh. Alors ça peut être un truc très vaste, ou comme ça peut être, bon là en l'occurrence, le théâtre des chemins de Compostelle, je l'ai réduit à juste une caravane sur un chemin, quoi.
Mais attends, t'avais aussi une fiche avec toi, la Pika. T'as une fiche complète.
Ouais, tout à fait. Qui détrie. En fait, il y a plein de trucs qui sont décrits autour de Compostelle. Il y a même des thèmes spéciaux. D'ailleurs, dans la foulée, j'ai un peu oublié de les jouer, mais en fait, il y a des thèmes liés à Compostelle aussi. Tout à fait.
D'accord. Donc là, le théâtre, en l'occurrence, tu l'avais vachement travaillé. On est d'accord. C'est pas un théâtre.
Il est dans la base, en fait.
Il est dans la base.
Il est dans la base.
Ah, d'accord. Ok, très bien. Entendu. Donc Jérôme, Salvatore. Secret donc, sur ce théâtre. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce
en
que
fait,
tu choisis?
Paradoxalement, c'est surtout ton personnage que j'ai créé.
Oui, c'est ça, c'est marrant ça.
Puisqu'en fait, moi, ce que j'ai écrit, c'est que le chef de la caravane n'avait aucune. Enfin, faisait acte de piété, était très démonstratif à ce niveau-là, mais n'avait aucune volonté religieuse. Il y allait juste parce que c'était une position de pouvoir qui lui était donnée et qui voulait à tout prix la conserver.
C'est un charlatan pour le pouvoir, finalement. Au lieu d'être un charlatan pour l'argent, c'est un charlatan qui reste, qui fait son sein pour le pouvoir. Et moi, le personnage que tu venais de créer, du coup, avec Salvatore, ce personnage du cocher. Parce que toi, Salvatore, ta phrase, c'était que tu savais qu'il voulait le faire, qu'il faisait ça pour le pouvoir et pas pour la piété, pas pour la foi. Et donc moi, je me suis dit, tiens, le personnage est intéressant. Et comme Pika m'a dit entre-temps qu'il fallait que je prenne une phrase qui soit en rapport avec la phrase de Salvatore, je me suis dit, bah, c'est moi qui vais être... Enfin, c'est toi qui me l'a proposé, qui me l'a suggéré, Pika.
Ouais, en fait, l'idée... Un peu l'idée qui sous-tend le système, c'est que si on commence à décrire un PNJ qui est cool, qui est intéressant, qui a des choses qui tournent autour de ton perso, en fait, il vaut mieux que ce soit un PNJ
qui le joue. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, j'ai pris la décision de jouer ce chef de caravane. Aussitôt, en plus, Salvatore m'a donné un nom. Il me dit, bah, t'as qu'à t'appeler Santiago. Donc hop. C'est parti. Donc au final, ouais, paradoxalement, c'est finalement Jérôme qui a créé mon personnage. Et ça m'a pas déplu, ça. Ça, j'ai bien aimé.
Puis juste après, moi, j'ai tiré un dé qui, du coup, m'a donné le fait que j'étais brigand. Donc je me suis dit que j'allais être un brigand caché dans la
caravane. Bah voilà, justement, toi, t'es tombé sur les brigands et ça, c'était un thème spécial Compostelle. Ah. C'est-à-dire que dans le jeu de base, il y a 12 thèmes.
D'accord. Qui correspondent aux D12.
Voilà. Et en fait, quand t'as un théâtre, tu peux changer certains des thèmes pour mettre des thèmes spécifiques au théâtre. En fait, pour être sûr que les éléments phares du théâtre, par exemple, sur les chemins de Compostelle, il y a plein de brigands, eh ben, pour être sûr qu'ils arrivent dans le jeu, on colle un thème dessus.
Voilà. Parce qu'au début, avant de créer notre perso, on tire un dé, et c'est un des 12, et fonction du résultat obtenu, ça va donner, il y a une espèce de table que tu as, toi, Pika.
Ouais, une table des thèmes.
Une table des thèmes, ça va donner un thème pour la création de ce perso. Comme le disait Jérôme tout à l'heure, mais c'était peut-être un petit peu confus pour les auditeurs, le thème qu'il a reçu à ce moment-là, c'était la pulsion.
Ouais. Moi, en fait, on parlait de la pulsion qui pousse les pèlerins à aller vers Compostelle, qu'en fait, Compostelle, c'est une espèce de lieu magique qui attire les gens comme un aimant, quoi.
Mmh. Ouais, tout à fait. Et moi, j'avais eu quoi comme thème? C'était C'était quoi mon thème? Tu te souviens? Je ne l'ai pas noté. La pulsion...
C'est pas le pouvoir ou quelque chose comme ça? Je sais plus.
Je sais plus.
J'avais fait deux.
La mémoire.
Tu sais, la mémoire.
Ouais.
Moi, en tout cas, je sais que j'avais pour volonté de récupérer une eau qui permettait de récupérer la mémoire pour garder mon pouvoir. Parce qu'il faut savoir que dans l'univers de Milvaux, la mémoire est un enjeu de pouvoir puisque les gens perdent la mémoire. Donc celui qui a la mémoire a le pouvoir. Jérôme, tu voulais intervenir.
En fait, quand ton perso avait le thème de la mémoire, ça permet de définir l'eau, comme tu disais. Et du coup, de voir que mon perso, qui était un faux miraculé, en fait, ton personnage avait monté un coup pour se faire passer pour un saint homme, qui a été de prendre quelqu'un qui était handicapé physique et mental, et de faire croire qu'il allait le miraculer, en utilisant l'eau de Compostelle. Et en fait, l'eau l'a pas vraiment sauvé, puisqu'il il arrivait à marcher avant. Par contre, lui a permis de récupérer des capacités mentales plus... Enfin, moins handicapante, en fait.
Dis-moi si je me trompe, mais est-ce que le nom de ton personnage Salvatore, ça viendrait pas du personnage Salvatore dans le nom de la rose?
Si, si, bien sûr.
Si, d'accord, voilà, c'est ça. Je t'imaginais comme
Salvatore.
Ça. Salvatore.
Salvatore.
D'accord, ça marche. Et donc, Flavie, toi, quand t'as tiré le dé, t'as fait 7 et c'était brigand.
Ouais, c'était brigand, et du coup, je me suis dit, bah, brigand, Compostelle, je vais leur voler leur eau, quoi.
D'accord. Donc, vous voyez.
Et puis ensuite, j'avoue que mon personnage m'a un peu échappé, puisque dans l'univers de Milvaux que je commence à connaître, je sais que tout le monde est fou ici. Donc, du coup, voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est que d'entrée de jeu, comme chaque personnage doit se définir par une phrase du type « je veux quelque chose », ou en tout cas qui utilise le verbe « vouloir », excuse-moi, c'est vrai, c'est pas forcément « je veux », ça peut être « machin veut », d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Salvatori. Et comme on doit prendre en considération la phrase qui a été dite précédemment, on est déjà dans un univers, dans un setting qui va faire qu'on va être les enjeux des uns vont dépendre des enjeux des autres, et on est déjà dans une forme de jeu de rôle, parce qu'on sait que la définition la plus simple du jeu de rôle, c'est créer une fiction en prenant en considération ce qui a déjà été dit précédemment.
Ouais, puis l'idée là, vraiment, aussi, c'est que les persos, dès la création, ils aient quelque chose à faire, en fait.
Ah ouais, il y a des enjeux tout de suite.
Et après, par contre, là où on essaie de faire monter la mayonnaise, c'est aux joueurs, accompagnés du MJ, bien sûr, de définir la portée de ces enjeux pour voir si c'est des enjeux à court terme ou à long terme, quoi.
Donc ça, c'est vrai que setting et création de groupe, très bien. À mon avis, vraiment, c'est très rapide, très simple. Ça, je pense que c'est pas mal. C'est inspirant, je trouve. Jérôme, tu voulais intervenir là-dessus ?
Ouais, alors pour le coup, encore une fois, j'ai vraiment l'habitude de mettre des créations en groupe. C'est un truc qui... c'est ma cam, quoi.
On a remarqué à la cellule, effectivement.
j'ai l'impression... Enfin, j'ai été surpris par le fait que ce soit très, très peu cadré. Alors, on a démarré très vite, mais je pense que c'était des joueurs qui avaient l'habitude de ce genre de choses, ou d'avoir des conflits entre personnages. Par contre, la richesse de l'autre côté, c'est qu'effectivement, ça a pris 30 secondes, enfin, ça a pris 5 minutes, quoi.
Ouais, ce qui est vraiment pas mal. Thomas, tu voulais intervenir ?
Bah, l'idée, en fait, c'est que les thèmes viennent de te filer des idées en plus. Bon, après... j'ai des groupes de jeux où ça se passe moins vite, quoi. On prend un peu plus le temps de réfléchir, quoi. Ça dépend aussi de l'aisance des joueurs. Bon, là, on était quand même quatre, je pense, un peu habitués, effectivement, à être créatif en jeu de rôle. C'est pas la cam de tout le monde, hein. Et puis ça va dépendre où, ouais, ça dépend quand même pas mal du groupe, hein.
Ouais, d'accord. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, je suis ici.
Très bien. Alors, on peut embrayer directement sur la fiction.
Ouais, scène je veux 1, bien,
il y a eu quoi ? Deux, trois scènes, on va dire. Trois scènes. Ouais. Première scène, l'homme en noir attaque la caravane. Azrael, donc le personnage de Flavie, le brigand, est caché dans cette caravane.
Parmi les pèlerins, ouais. Et en fait, l'homme en noir est à ses services.
À son service. Donc, il a tout organisé. Et lui, de l'intérieur, il fomente une espèce de comment on appelle ça, un hold-up, je sais pas comment dire, de la diligence, quoi,
ouais, tout à fait.
Pour prendre l'eau. Salvatore essaie de calmer le jeu. Moi, en opposition, je vais essayer, au contraire, de casser la tête de l'homme en noir de façon très violente et très virulente, de façon à faire peur aux autres. Parce qu'il faut savoir que Pika nous décrit les acolytes de cet homme en noir comme étant la cour des miracles. Des gueules cassées, des mecs boiteux, ça a l'air d'être des pauvres hères qui traînent dans les bois. Ils sont pas forcément, on n'a pas l'impression en tout cas qu'ils ont un moral très solide. Donc je me dis, tiens, je vais leur casser la tronche. Et Salvatore dit, ah non, moi je vais faire la paix. Donc du coup, il y a un premier conflit là. Alors,
sachant que dans le jeu, il y a deux types de conflits. Excuse-moi Flavie, je donne la parole tout de suite. C'est conflit simple ou conflit duel. Conflit simple, il y a un seul joueur qui jette les dés contre pour atteindre tel ou tel objectif. Et conflit duel, en fait, il y a un joueur qui jette les dés pour atteindre l'objectif et l'autre joueur, il jette les dés pour le contrer, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu croire que j'étais en duel avec Fly parce que du coup, je cherche à faire fuir ces hommes et au final, je vais me retrouver en duel avec Salvatore. Fly, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, c'était au début de cette scène. Alors, je sais pas comment c'est habituellement, mais moi, j'ai pas vraiment compris qui parlait quand et du coup, je trouvais qu'au début, ça avait été un petit peu brouillon parce qu'on savait pas vraiment qui avait le droit de parler, faire quoi quand. Et...
Jérôme opine du chef. Jérôme, t'es d'accord avec Fly là-dessus ?
Ouais, tout à fait. Alors, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On était dans le cadre d'un podcast, on a dit on a moins d'une heure, où on a démarré en réussissant à se louper avant de démarrer.
Ouais.
On était dans des conditions super speed.
Ouais.
Moi, j'avoue que j'ai pas posé de questions à ce moment-là, ce que j'aurais fait sur un test normal, quoi, pour pas sacrifier à la rapidité de la partie. Et je pense que du coup, ça a été, ça, c'est ce qui a compliqué un petit peu pour la suite.
Mais du coup, est-ce
je ne sais pas dans quelle mesure ça représente le jeu, quoi.
Mais est-ce que d'habitude, du coup, il y a un ordre de parole pour les gens autour de la table?
Alors, il ou... y a deux modes de jeu, en fait. Le mode de jeu principal, il est ce qu'on appelle avec instance, où en fait, ça se passe par chaque joueur a droit à un tour.
Voilà.
Où en fait, il est un petit peu sous le.
C'est à ça qu'on avait joué ce
sous les projecteurs, quoi. Hein. Et donc, on va dire que c'est un peu lui qui domine la parole. Là, en l'occurrence, j'avais décidé de jouer sans instance, où en fait, bah, on se rapproche plutôt de ce qu'on considère comme normal en jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux
classique.
Intervenir, bah, il faut l'ouvrir, quoi. Hein. Il faut demander la parole, quoi, entre guillemets. Je peux me tromper, mais je pense que du coup, dans la plupart des jeux de rôle, ça procédait de la même façon, quoi.
Alors, moi, je pense.
C'est-à-dire que bah, vous êtes tous autour d'une situation, et si tu veux intervenir, bah, il faut le dire, quoi.
Ouais. Moi, je pense que la situation était tellement brutale aussi qu'on s'est tous un peu regardé en chien de faïence, genre. Parce qu'en fait, si tu veux, en jeu de rôle classique, lorsqu'on démarre en général, c'est soit une scène d'auberge, soit une scène de discussion. Où les gens discutent de façon posée. Alors, c'est.
Les intros in media res, il y en a quand même.
Mais l'immedia res, ça fonctionne bien à partir du moment où chacun connaît déjà son rôle et ses enjeux. Là, en fait, l'immedia res, le problème, c'est que vu qu'on vient juste de créer nos persos, c'est nous prendre de court, si tu veux. On est un peu. Ce qui explique peut-être le côté brouillon du départ.
Et puis en plus, comme on n'avait pas trop le temps de poser les trucs.
Oui, je pense que ça, à la limite, c'est un problème de
voilà,
maîtrise.
Voilà, exact.
Je pense pas qu'on puisse le mettre sur le dos.
Je suis d'accord.
Jeu.
C'est un problème de cas particulier. C'est ce que disait Jérôme tout à l'heure quand il disait c'est lié à cette partie-là spécialement parce que lui, il est par Skype. Nous, on est pressé. Enfin bref, c'est normal que ça se passe comme ça.
Déjà parce qu'en fait, du coup, comme je savais dès le départ qu'on aurait une heure et demie pour jouer, je me dis ok, il faut que je fasse une immédia rest parce que sinon, ça va pas avancer, quoi.
Alors, Jérôme.
Aucun souci avec le immédiat reste. Pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi, Romaric, sur l'impact que ça a. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup ça.
Ah non.
Le souci, ça a été à des moments, en fait, sur les premiers tests qu'on a fait, pour savoir qui donnait le résultat, sachant que c'est des tests qui se font en plusieurs étapes. C'est pas des tests à lecture directe.
Oui, bien sûr.
Donc derrière, on avait besoin de ton soutien pour comprendre comment faire le test. Puisque tu nous l'as expliqué en jeu, tu ne l'as pas expliqué avant pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure.
Donc là, Jérôme parle à Thomas. Hein.
Pardon ?
Il faut préciser à qui tu parles. Quand tu dis tu, dis Thomas, parce que sinon les auditeurs...
Oui, Thomas, pardon. Ouais. Et ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'à la fin du test, c'est le MJ, alors comme dans plein de jeux, hein, qui raconte ce qui se passe. Et vu qu'avant, dans les actions, c'était les PJ, ou les joueurs, ces éléments-là, enfin pour moi, ont été un peu confus. Maintenant, je pense encore une fois qu'avec une explication, ce serait passé sans problème.
Ouais. D'accord.
Ouais, je suis d'accord avec.
Alors moi, c'est juste une parenthèse. Je condamne pas l'immédiat res. Moi, j'aime bien ça. Et je dis juste que là, en l'occurrence, dans la partie-là, ça a posé problème parce que c'est ce cas particulier de cette partie où on n'a pas vraiment le temps de jouer. C'est tout. Hein. Ce que je disais à l'immédiat res, moi aussi, j'adore ça.
Et t'as dit un méchant, t'as voulu le taper d'entrée, et ça t'a pas bloqué.
Non, pas du tout. Mais justement, c'est là que le conflit intervient. Alors moi, je pensais qu'il serait avec Fly parce que vu que c'était ses brigands. J'imaginais que c'est elle qui allait dire non, tu tapes pas mon brigand comme ça. Et au final, non, il intervient avec Salvatore, qui lui veut au contraire calmer le jeu. Alors là, qu'est-ce qui se passe techniquement, concrètement? Moi, je regarde mes phrases, donc j'en ai qu'une seule pour le moment. Je dois conserver le pouvoir, je dois récupérer l'eau pour conserver le pouvoir. Donc je joue cette phrase, je prends un D6. Ce D6, je vais le lancer. Comme l'a dit Pika, il y a deux types de conflits dans ce jeu. Le conflit simple et le conflit duel. Au départ, tout présage, comme je veux faire fuir les gardes, que Fly ne dit rien, ça présageait que j'allais faire un conflit simple. Tout allait bien se passer. Et au final, Salvatore débarque, propose de calmer le jeu. Tu considères, toi, en tant que meneur, que ça entre en conflit. Donc, on lance les dés. Alors là, pourquoi j'ai lancé deux dés à ce moment-là, Pika? Tu peux m'expliquer? J'en ai un pour la phrase et l'autre. Pourquoi tu m'as fait lancer un deuxième dé?
Je sais plus.
Et en gros,
je pense que si t'as eu un dé, si t'as eu plus de dés que de phrases, c'est quelqu'un qui t'avait aidé. Alors, je suis pas sûr que t'en aies essayé deux à ce moment-là.
D'accord, ok. D'accord, c'est bizarre. C'est bizarre cette histoire. En tout cas, il faut dire ce que c'est que ces dés. Les D6, dans Influenza.
C'était avec un conflit avec moi que tu as lancé 2 dés. Dans celui-là, tu n'en as lancé qu'un seul.
J'en ai lancé qu'un seul, ouais. Ok.
Parce que du coup, tu as raté et Salvatore, exact. Il a fait un dé de sacrifice.
Exact, tu as raison, Fly. Exact, tout à fait raison. Donc, faut dire en fonction du résultat du dé, ce qui se passe. Si on fait un 1, on gagne, mais au prix d'un sacrifice. Si on fait un 6, on gagne, mais on gagne super bien. On ajoute un truc.
Ouais, tout à fait.
C'est comme
ça appelle une puissance, c'est que non seulement tu vas atteindre l'objectif, mais en plus de ça, tu vas écrire une phrase en plus, donc une nouvelle ressource.
Donc
généralement c'est potentiel. Un oui et quoi. C'est du oui, potentiel. Je gagne l'objectif et en plus il se passe un truc de bien. Voilà.
C'est
dans
un
la
oui
fiction,
et. Un oui et, alors ouais. Que le 1 c'est un oui mais, ouais, c'est-à-dire que tu vas réussir, mais par contre tu vas perdre ton bras, tu vas perdre quelque chose, tu vas perdre ton épée.
Ouais.
Et tous les autres scores du dé, à part le 1 et le 6, ce sont
des souffrances. C'est-à-dire des non et.
Non et, voilà c'est ça, c'est tu perds et en plus
mais
tu
en
perds,
plus il t'arrive une saloperie quoi.
Voilà. Donc ça c'est important de le dire. C'est donc là du coup on lance le dé, Jérôme et moi. Jérôme fait 2. Jérôme fait 1 et je fais 2. Et donc, du coup, il se retrouve en position de devoir sacrifier quelque chose, de pouvoir gagner, mais en sacrifiant quelque chose. Et au final...
En l'occurrence, qu'on sacrifie, quand on a des sacrifices, qu'on sacrifie, c'est des phrases. Et Jérôme, t'avais qu'une phrase à ce moment-là, il me semble. Hein.
Ouais.
C'est ça. J'avais qu'une phrase et tu me proposes d'échouer. Alors, à savoir qu'il y avait un enjeu qui était assez faible entre nous.
Ouais.
Pour en gros ne pas perdre mon personnage et gagner un pouvoir supplémentaire. Alors j'étais surpris sur le coup, enfin je te l'ai dit, parce que pour moi il y avait un choix évident là. Ça ressemblait beaucoup à un non-choix en fait.
Ah oui, tu vas pas perdre ton perso, tu préfères prendre un pouvoir.
Bah, j'ai le choix entre perdre un truc qui est pas très important puisque le conflit était pas très important et non seulement garder mon perso mais l'avoir plus fort entre guillemets.
Alors, c'est vrai que très souvent le choix semble évident. C'est pas forcément le cas. Je t'explique. Il y a des joueurs, ça je l'ai vu, qui trouvent sympa, surtout même au début, en fait, de dire ah bah non, ok, très bien, je gagne avec le dé de sacrifice. Donc je barre, ça veut dire que je vais sacrifier mon unique phrase. Si tu sacrifies ton unique phrase, eh ben tu meurs. Et en fait, ça fait un effet pré-générique. C'est-à-dire qu'en fait, là, mon perso, c'est juste le mec qui se fait dessouder au pré-générique. Il y a un autre cas limite qui est bon. L'autre cas aussi, c'est quand t'as beaucoup de phrases, c'est pas très grave d'en sacrifier une. Et donc, en l'occurrence, il y a des fois, si les objectifs sont vraiment importants pour toi, tu choisiras quand même de gagner avec un sacrifice plutôt que de perdre pour avoir un pouvoir. Et le dernier cas où tu seras aussi tenté de gagner avec un sacrifice, c'est si t'as déjà développé un pouvoir, tu peux pas en développer un deuxième. Donc du coup, si tu veux développer un pouvoir pour éviter le dé de sacrifice, il faudra que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Alors ça t'est arrivé justement, Jérôme, à la fin de la partie. Il me semble qu'en l'occurrence, t'as filé ton dé de pouvoir. Non, t'as choisi de...
En fait, ce que...
Eh ben, il me semble que justement, t'as choisi quand même de gagner l'objectif en sacrifiant. Hein.
Oui, le truc, c'est quelque chose, quand je teste un jeu, c'est un peu comme si je jouais à un jeu vidéo et j'essaie d'appuyer sur tous les boutons.
Ouais, ok.
Donc j'essaie un peu tous les mécanismes.
Tu penses qu'en tant que... Du coup, en tant que joueur, ça se trouve, si t'aurais pas été dans les optiques de test, t'aurais fait différemment, quoi.
Sincèrement, je sais pas, je me souviens plus. Il y a eu plusieurs cas. Le cas, par exemple, où j'ai filé le dé à Flavie à la fin, ça me semblait aller dans le sens de... le sens plus sympa pour la fiction.
Voilà.
Et j'avais l'impression que c'est ce qu'elle voulait aussi. Donc,
Ouais, c'était parfait. Ça me permettait de faire quelque chose et de tester
en fait,
le jeu.
Tu vois, tu as la fiction et puis aussi l'interpersonnel qui va aussi influer sur ton choix. Donc, je pense qu'il y a vraiment un vrai choix.
Alors,
quand même.
J'aimerais juste te poser 2-3 questions sur ces phrases. Donc, les phrases, on est d'accord, ça sert de puissance pour le personnage puisque c'est ce qui va lui permettre de lancer plus ou moins de dés pour réussir ou pas. Ouais, mais dans tous les cas, tu seras obligé de sacrifier parce que tu peux lancer une pelletée de dés. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore dit. Tu peux lancer une pelletée de dés, mais si t'as un 1, c'est le 1 qui vaut et il efface totalement l'ardoise.
Tout à fait, ouais.
Tout le reste disparaît. Mais bon, on va pas rentrer de là-dedans parce qu'on l'a pas vraiment testé. Donc, mais Les phrases, c'est tes PV, c'est ta puissance, en fait. C'est, ta
point,
c'est ton point de vie, c'est aussi ton potentiel. Comment on gagne des phrases dans Influenza?
Ah, donc, il y a deux façons. Tu joues des conflits, et avec les conflits, tu vas récolter les scores là, de 2 à 5.
Ouais, la souffrance. Ouais.
Te donne en fait des phrases de souffrance. En fait, c'est des dommages collatéraux du conflit.
D'accord. Ouais. Donc, en fait, la souffrance te donne du pouvoir dans Influenza.
Ouais, ouais. C'est-à-dire que t'écris des phrases qui sont pas cool pour ton perso. Mais après, si tu utilises dans les futurs conflits en disant que c'est des ressources pour le conflit ou des handicaps, parce que par exemple, tu as le droit d'utiliser une phrase dans un conflit si c'est un handicap. Par exemple, en disant si t'as expliqué que t'étais lâche, tu peux utiliser cette phrase pour faire un conflit, pour tuer ton adversaire.
Ouais, d'accord.
C'est-à-dire je suis lâche, mais je vais quand même y aller, quoi. Parce que il suffit que ce soit lié au conflit, en fait.
D'accord, ok. Et même si c'est en opposition totale, ça
même
peut,
si ouais. C'est en opposition totale. Par contre, si ça a vraiment rien à voir. Si tu dis je suis là, je dis cette phrase pour faire pousser une fleur, voilà, je te filerai pas de dé, quoi. Ça n'a rien à voir. Quoi.
Tout à l'heure, t'as dit au départ, on peut faire sacrifier son perso un petit peu comme si c'était un cliffhanger initial, genre tu vois, un
bah
sacrifice
ouais, parce qu'en fait, quand t'as très peu de phrases au début, bah, tu crées ton perso, t'as juste une phrase. Donc au début, t'as très peu de phrases. Donc ça va être très facile de mourir sur un dé de sacrifice.
Voilà, hein. C'est ça.
Et donc, en fait, dans ce jeu, ça crée un effet, effectivement, ce que j'appelle pré-générique. Tu sais,
oui, je vois très bien.
Au début, tu vois un personnage, tu crois que c'est lui le héros, puis il se fait dessouder au bout de 10 minutes.
Quoi. Ouais, bien sûr.
Bien le sûr. Début de Game of Thrones.
Bon, par contre, c'est difficile dans ces cas-là de parler de son personnage. Parce que du coup, tu vois, il est. En fait, c'est juste un PNJ qu'on sacrifie au départ pour au dieu Milvo.
C'est un personnage pour 10 minutes, quoi.
Au dieu Nyarlathotep.
Sachant que, en vrai, tu peux jouer très stratégique si tu veux, notamment quand tu joues en campagne. Si tu crées un personnage, dès le départ, tu t'y es bien attaché. Surtout en campagne, on va prendre un peu plus de temps pour imaginer le perso. Du coup, au départ, tu vas jouer très stratégique pour éviter ce genre de, d'action, quoi.
Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Excuse-nous, parce qu'on parle beaucoup.
Attends, parce que pour le coup, j'ai oublié ce que c'était.
C'était par rapport à parler de son personnage, de dire qu'il va sacrifier.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui fait que c'est ton personnage et qui est super important, c'est que tu ne sais pas au début si tu vas le perdre ou pas.
Exactement.
Tu as la possibilité de le perdre, mais ça dépend de tes choix.
Ouais. C'est ce que disait Picard en disant il y a du jeu stratégique en fait. Tu peux quand même le garder.
Non seulement tu peux le garder, mais t'as cette incertitude. Tu peux très bien, quelque part, pour le perdre, au début, t'as qu'un seul pouvoir. Donc tu jettes en théorie qu'un seul des six. T'as une chance sur six de le perdre.
Je te corrige juste, t'as qu'une seule phrase. Le pouvoir, c'est un type de phrase particulier, quoi.
Ah pardon, excuse-moi. Et donc ouais, t'as qu'une chance sur six de le perdre. Tu es pas dans un jeu, par exemple, avec une structure qui va t'obliger à perdre un personnage dès l'intro.
Ouais, bien sûr.
Donc tu peux tout à fait t'y attacher, être surpris, etc. J'étais un peu surpris par l'aspect, par le choix initial sur le premier dé de sacrifice, mais c'est un détail pour moi.
Ouais, d'accord. Mais
sachant que j'ai cru bon dans les règles, cette idée de convertir le dé de sacrifice en dé de pouvoir, j'ai cru bon de le mettre en règle avancée, parce que ça a quand même un point qui complique nettement le jeu. Ça rajoute de la stratégie, donc je pense qu'il est essentiel pour le jeu, mais on aurait pu jouer sans ces histoires de dé de pouvoir.
Alors, faut dire un autre truc. Donc, ce que disait Brand rapidement pour résumer la situation, c'est qu'il disait qu'à partir du moment où dans un jeu, on nous propose un choix A qui semble nul à chier et un choix B qui semble très bon, ça sert à rien du coup de proposer le choix parce que de toute façon la personne va s'engouffrer immédiatement dans le choix B. Donc c'est une remarque de game design. Toi, ta réponse, c'est de dire oui, mais attention, le choix B, c'est une règle avancée.
C'est de nuancer en disant que selon les situations, les deux choix peuvent se valoir.
Oui, aussi, exact, c'est vrai. C'était ton premier argument.
Selon, je pense aussi l'expérience du joueur.
Tout à fait.
Est-ce qu'il recherche, c'est-à-dire plus, est-ce qu'il cherche l'intérêt de son personnage ou est-ce qu'il cherche
l'intérêt de la narration, de la fiction.
De la fiction, voilà. Quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'on passe tout de suite à la scène 2 ou est-ce que vous voulez encore parler un peu de cette scène-là?
Non.
Non, c'est bon, on avance. Donc, scène 2, alors déjà. Transition entre scène 1 et scène 2, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, dans Influenza. C'est l'ellipse. L'ellipse, je trouve ça génial. Et ça, c'était déjà le cas dans ton premier Inflorenza, celui que tu nous avais fait jouer en playtest. C'était ce côté, on passe d'une scène d'action à une autre scène d'action. Il n'y a pas de temps mort, tu vois ce que je veux dire ?
Après, je pense que ça, là, ça relève de la technique de maîtrise. Honnêtement,
il n'y a pas ça dans les règles.
Alors, le jeu en instance qu'on n'a pas testé là, en découpant effectivement le jeu en tours, bon, il va quand même inviter à faire des ellipses et puis à jouer en fait vraiment les gros morceaux de dur. Là, par contre, on a joué sans instance. On aurait pu être nettement plus cool au niveau du rythme. Donc là, c'était plutôt une technique de maîtrise parce que je voulais qu'on fasse du jeu en une heure, que ça bouge, que ça pète. Et puis je voulais surtout qu'on teste le système à fond. J'avais pas le temps de faire des moments contemplatifs, quoi.
D'accord, ok.
Pour moi, en tout cas, mais c'est souvent ça. Hein, moi, quand on me lèche dans l'action et que on me laisse pas le temps d'avoir des moments contemplatifs, généralement mes persos partent en live. C'est ce qui m'est arrivé.
Ouais.
Voilà, je suis ce genre de joueuse. Si on me laisse pas un moment me poser pour faire un moment d'émotion où je deviens amie avec Salvatore, ben moi je pète les boulons. Mais en même temps, ça va très bien avec cet univers-là. Donc,
ouais, mais là c'était honnêtement, je pense qu'on peut avec le même jeu, tu peux jouer beaucoup plus calme. Hein. C'est vraiment pure
technique. Ah oui, c'est pour ça parce que moi le jeu que j'avais fait cet été, il y avait eu des grands moments des moments jolis quoi où on pouvait se parler ou donc j'ai passé deux images complètement différentes du jeu que j'ai.
Ouais, c'est curieux. J'ai oublié de dire quelque chose sur la scène 1. Je suis désolé, du coup ça me force à revenir en arrière, c'est qu'au moment où Azrael le bandit s'enfuit, j'essaye de lui tirer dessus, mon valet me fait dévier mon arc et je me tire dans le pied avec un arc. Et du coup, ça sera important pour la suite.
Et c'est parce qu'il avait, donc lui, quand il avait jeté les dés pour le conflit, il avait récolté un dé de souffrance.
Voilà.
Donc en plus, les règles avaient déterminé qu'il perdait le conflit. Et en plus, son dé de souffrance raconte que tu perds le conflit, mais en plus, il t'arrive une merde. En l'occurrence, ouais. Tu te tires dans le pied.
Voilà. C'est nul. C'est pourri.
Et du coup, Salvatore s'enfuit avec moi.
Voilà.
Parce qu'il a l'impression que son maître a voulu le tuer.
Donc d'où la scène 2, du coup on peut revenir à la scène 2, c'est mon pied qui est en train de pourrir totalement, qui se gangrène le soir, c'est ça ? On s'arrête le soir à une auberge, et je constate que je vais plus pouvoir continuer la route dans cet état parce que mon panard est en train de pourrir. Et pendant ce temps, dans les bois, quelqu'un ressent ma souffrance du fait de l'obtention de son pouvoir. Salvatore ressent que je suis en train de souffrir. Alors Salvatore, est-ce que tu veux nous raconter cette scène incroyable qui s'est passée entre toi et le personnage de Flavie ?
Alors,
Flavie est déjà morte de rire.
Moi, j'ai pas tout bien compris à ce que voulait faire la dame. Je préférais que ce soit elle qui l'explique.
D'accord, ok, très bien. Flavie, explique-nous.
Bon, je l'ai dit que je partais souvent en live quand j'avais
Elle avait anticipé, en fait. Elle avait anticipé. Hein.
Quand j'avais pas le temps de me poser, je pars un peu en live. Bon, bah là, c'est ce qui s'est passé. Donc lui, Salvatore, il veut aller aider son maître. Clairement, ça me fait suer. J'ai pas envie d'y aller. J'ai envie d'aller voler l'eau de Compostelle. C'est marqué sur ma fiche. Et je sais pas pourquoi, il avait décrit plein que tous ceux qui étaient à mon service étaient des estropiés. Et je décide que quand je fais l'amour aux estropiés, ils retrouvent la mémoire. Et du coup, je les asservis. Ils deviennent mes esclaves pour voler des trucs, et je décide de forcer Salvatore à faire ça, voilà.
Donc, en fait, il va y avoir une tentative de séduction de ton personnage vers Salvatore.
Séduction, c'est bien de le dire comme ça, ouais.
Voilà. Salvatore. Ouais, Jérôme. Tu voulais dire
quoi? Oui, enfin, séduction, pour des gens qui arrêtent pas de parler contrat social, là, c'est un peu limite ce qui s'est passé quand même, hein.
En fait, ça reste quand même une scène de séduction. Hein.
De séduction un peu forcée.
Oui, voilà. Et donc, du coup, on rentre en contradiction. Donc, on lance les dés pour un conflit, quoi.
Comment Salvatore a atterri chez les brigands déjà ?
Et parce qu'il vient avec moi parce qu'il a l'impression que son maître a essayé de le tuer. Donc, je lui dis, viens avec moi, Salvatore.
En fait, Salvatore, il avait joué un conflit. Ah oui, c'est ça. Le conflit de la scène précédente, c'était donc Romaric, en fait.
Bande son arc vers Azrael.
Santiago, ouais. Et en fait, son objectif, c'est de tirer une flèche dans Azrael pour l'immobiliser.
Dans son dos, puisqu'elle est en train de fuir.
En fait, donc, Flavie n'a pas été. Donc, c'est duel entre Romaric et Flavie. Mais Flavie n'a pas été seule à apporter des dés, puisqu'en fait, Salvatore l'a aidé. Il a dit « Je m'interpose sur le chemin de la flèche, j'utilise mon pouvoir de la compassion.
»
Et en fait, le pouvoir de la compassion, il permet de transformer un dé en dé de sacrifice. En l'occurrence, il n'avait pas utilisé son pouvoir, il y avait ex aequo entre...
Ces pouvoirs-là, tu les tires d'où, Pika ? C'est dans la base ? Les pouvoirs de compassion qui permettent de...
Oui, en fait, c'est il y a 144 exemples de pouvoirs dans la base, mais c'est une liste ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois tirer un dé 12 pour qu'il te donne le thème de ton pouvoir. En l'occurrence, c'était l'amour. Hein, donc c'est pour ça qu'on avait imaginé un pouvoir de compassion. Il était pas dans la base. Hein, on l'a imaginé vite fait comme ça. Bref. Donc Flavie et Jérôme lancent les dés contre Romaric. Et on voit, c'était même pas ex aequo, c'est Romaric qui gagne. Et donc là, je propose à Jérôme d'utiliser son pouvoir à fond, ce qu'il fait. Il transforme un dé de la main de son camp, il le transforme en dé de sacrifice, ce qui fait que il gagne le conflit.
Je prends le dé de sacrifice.
Mais il prend le dé de sacrifice, en l'occurrence, et il barre son il l'utilise pour barrer sa phrase qui dit qu'il a le pouvoir de la compassion. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il a empêché, sans doute par... En apitoyant le perso de Romaric, il l'a empêché de tirer une flèche dans Azrael. Mais par contre, il a bien vu que pendant un instant, le personnage de Romaric était prêt à tirer malgré le fait que Salvatore s'était interposé. Voilà. Et donc, du coup, il dit bah, puisque c'est comme ça, c'est fini la compassion, je suis dégoûté. Quoi. Et donc, il avait choisi de barrer le pouvoir de la compassion.
En gros, il comprend que je suis prêt à faire.
Et du coup, c'est
le
pour ça qu'il a suivi Azrael. Il a fait, en fait, mon maître,
il est prêt à me tuer.
Mais en fait, ouais. C'est une petite chose gentille, Salvatore, dans un monde de tout pourri.
Tout à fait.
Et je décide, soyons cash, de le violer pour l'obliger à devenir mon esclave. Voilà. Mais Salvatore se laisse pas faire et des jets en opposition. Et je rate mon jet, donc, voilà.
Donc, Salvatore réussit finalement à te convaincre de venir me prêter main forte,
ouais.
De venir m'aider
et
à
du coup mon nom
mais
c'est que non seulement j'ai perdu mais que en plus comme je suis trop dégoûtée qu'un truc comme ça m'ait dit non, je décide de le suivre et de tout faire pour un jour qu'il devienne mon esclave.
C'est incroyable parce que Salvatore c'est le plus gentil d'entre nous et il réussit même à corrompre un brigand malfaisant à venir aider un mec qui lui-même est malfaisant, c'est-à-dire que c'est incroyable. L'innocence vraiment là sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle l'emporte. On sent vraiment.
T'auras compris que le jeu vise à ce genre de réflexion. Hein.
Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Hein.
Si j'ai bien compris, je crois que ce genre de truc où ce sont les imbéciles qui gagnent à la fin et plus t'es nié, plus tu gagnes, c'est ce qu'on appelle le sludge score. C'est ça, non ?
Tout à fait. On va peut-être finir avec la fiction, du coup, scène 3.
Alors, donc, juste un petit point sur cette scène-là. En dehors des scènes de duel et tout ça, ce que je trouve très intéressant, c'est ce petit dé que je tiens dans les mains, qui est le dé 12, qui est ce dé de thématique. Alors ça, je sais... Quand est-ce qu'on l'utilise, ce dé ? Je trouve très intéressant.
À chaque fois que t'es amené à écrire une phrase, soit parce que le MJ dit « Ok, là, tu mérites de gagner une phrase. » Par exemple, type, il y a un moment, ton perso, Romaric, dit « je prends un arc autour de moi, et puis je vais tirer. » Ah bah tiens, là, t'as une nouvelle ressource. Mmh. Ça vaut le coup que t'écrives une phrase là-dessus, quoi. Parce que, en fait, si tu chopes une ressource, mais que t'as pas de phrase qui en parle... Eh ben, c'est comme si c'était pas sur ta feuille de perso. Donc, si je voulais que l'arc lui donne un bonus, il fallait le consacrer par l'écriture d'une phrase.
Tout à fait.
Ça, mais quand on écrit une phrase,
on lance.
Eh bien, elle doit être liée à un thème. Donc, Romaric jette le dé. On lit le dé 12.
Voilà.
On voit le thème correspondant
sur le
tableau.
Tiens, j'ai fait 5, la Pika, par exemple. Ça me donne quoi ? Vas-y.
5, c'est l'égrégore. L'égrégore, c'est l'énergie magique qu'il y a dans Milvaux, quoi.
Ouais,
donc, à la limite, s'il avait pris égrégore, on aurait dit, en fait, son arc, c'est un arc magique. Mmh. Peut-être que quand il tire, ça tue la mémoire de ceux qui le touchent,
Donc,
on rajoute une couche liée au thème.
D'accord.
Alors, sachant, je précise quand même.
C'est génial.
Je pense que ça, c'est pas un truc qui marche facilement avec toutes les tables. Et donc, il est écrit dans la base que si les joueurs sont bloqués par le fait de devoir recoller ce thème par-dessus, ils peuvent passer outre de temps en temps, quoi.
Vraiment, il me semble que ce D12 de thématique fonctionne comme la couleur, ce qu'on appelle les couleurs
ouais,
en général dans la théorie, de notamment de Frédéric Sintès, qui parle de, très souvent des couleurs pour prosopopée, où il explique donc on crée...
Ça te sert quand tu crées ton personnage, plutôt créer ton personnage et écrire une phrase, ouais. Quand on rajoute une ressource, ouais. Ou à l'issue d'un conflit, parce que t'as vu que voilà. Les conflits te rapportent des phrases
tout à fait,
aussi. Ouais. Quoi.
Donc en fait, ce qui est intéressant avec ce dé, c'est que ça te donne une idée, une direction dans laquelle créer des nouvelles choses. Sachant que les phrases, évidemment, elles viennent pas ex nihilo, elles viennent pas de n'importe où. Elles vont créer de la fiction.
Ça raconte ce qui s'est passé, quoi.
Comme tu le disais, les phrases créent du jeu, en fait. Tu disais ça pour la pénurie jadis, mais aujourd'hui, on pourrait le refaire pour les phrases dans Influenza. Elles créent du jeu, vraiment. Donc, c'est important d'avoir ce petit dé de couleur. Et le fait qu'il soit aléatoire, je trouve pas ça inintéressant, parce que ça oblige à créer dans une direction qu'on n'avait pas...
C'est une contrainte
créative. Ça crée de la surprise, en fait.
Bah, en fait, j'avais réfléchi, si tu mets 12 thèmes, ou 40, ou 2, n'importe quoi, si tu laisses le joueur choisir, en fait, il va juste choisir... Le joueur a son idée de départ, il va juste choisir le thème qui colle le plus à son idée de départ. Donc, en fait, il n'y aurait pas de thème, ça serait pareil. Donc, effectivement, si tu veux utiliser des couleurs, il faut quelque part elle soit entre guillemets imposée à un moment, sinon ça sert à rien de faire des couleurs quoi.
Ah ouais.
Ou alors c'est tu te fies uniquement sur la capacité du MJ, des joueurs à jouer dans la couleur de l'univers sans qu'il y ait une mécanique qui le soutienne quoi.
D'accord. Scène 3, donc on se rejoint du coup. Salvatore guide Azrael vers l'auberge et Salvatore a sur lui une partie de ce qu'il reste de l'eau de mémoire que je lui ai donné jadis pour soi-disant le guérir de sa paralysie des jambes.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et ils arrivent à l'auberge et là d'abord je pense qu'ils veulent me tuer. Et qu'est-ce qui se passe après, Thomas?
Bien en fait ils t'arrêtent et puis ils t'expliquent qu'ils sont là pour te soigner.
Ouais.
Salvatore te fait boire en fait son eau miraculeuse.
Ouais.
Et en fait là le système enfin à chaque fois qu'il y a le système te laisse deux choix. Est-ce que je demande un conflit pour voir si ça marche ou est-ce que en tant que MJ je raconte directement ce qui se passe quoi.
Bon, c'était la fin de la partie donc voilà. Il était temps de conclure.
Donc j'ai choisi de raconter ce qui se passe puis aussi parce qu'il faut pas sombrer dans ce que c'est Frédéric Sintès qui appelle ça le syndrome orphelin du tout conflit quoi. C'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a une mécanique de conflit qu'il faut faire des conflits tout le temps quoi. c'est important de savoir qu'on peut jouer sans faire de conflit quoi.
D'accord.
Le conflit c'est pas un passage. On peut résoudre des nœuds de l'histoire sans passer par un conflit.
S'il y a consensus autour de la table.
Donc là, en l'occurrence, j'ai joué sans conflit, où j'aurais pu dire « Ah bah ok, Romaric, tu gagnes une phrase qui raconte ce qui se passe. » Donc voilà, c'est important ça. Et donc en l'occurrence, il lui donne de l'eau miraculeuse, mais c'est pas une eau qui guérit sa gangrène, c'est juste une eau de mémoire. Et en fait, il est toujours paralysé par la douleur et il voit se présenter au pas de la porte de sa chambre
mes souvenirs de ma mère
voilà sa mère telle qu'elle était quand il était enfant quoi.
Voilà c'est ça.
Donc il a gagné sa mémoire mais ça soignera pas son
ça soignera pas la jambe. Et la chute c'est ça. C'est que au final tel est pris qu'il croyait prendre puisque moi j'avais dit que j'allais guérir Salvatore avec une eau qui était finalement une eau de charlatan qui rendait juste la mémoire. Et au final, lui, après, il me dit « Ah oh ben, je vais te guérir !» Et puis, il me donne la même eau. Et en fait, bah évidemment, ça ne me guérit pas. Puisque... Donc, au final, le charlatan est pris à son propre piège. L'arroseur est arrosé. Et c'est un peu la conclusion du jeu. Jérôme, est-ce que tu as des réflexions globales à faire sur le jeu, des choses qui te viennent?
Alors, pour reprendre ce qui a été un peu dit tout à l'heure... Moi, les dés de sacrifice, tout ça, machin, je suis un peu passé à côté, très franchement. J'apprécie qu'il y ait une mécanique de sacrifice, mais c'était un peu trop confus pendant la partie pour que j'apprécie. J'ai apprécié, par contre, le thème. Enfin, le dé et le thème, c'est une contrainte et c'est pour moi ce qui a apporté le jeu, en fait. L'essentiel du jeu a été apporté par le dé de thème. Ça, je me pose des questions sur pendant combien de temps en fait ça peut être sympa de jouer en rajoutant un thème. Heureusement, il y a des conflits qui sont très forts dès le début. Du coup, ça permet de continuer à jouer sans trop de soucis. Enfin, là, je pense qu'on aurait pu continuer sans problème à jouer un petit peu plus avec ces personnages. Ça aurait pas été problématique. Alors même qu'ils ont été faits vraiment pour du one shot super court. Donc ouais. ce qui m'a intéressé, moi, surtout, la création de groupe, parce que rapide, le thème, et puis sur le reste, en fait, avec le simple test qu'on a fait, c'est un peu difficile à dire pour moi, tu vois, il faudrait que je lise le bouquin ou que j'essaye de regarder un peu plus précisément.
Si je peux me permettre de répondre sur le thème, hein, sur ton interrogation sur le thème, je pense honnêtement que ça, sur le long terme aussi, c'est intéressant. Je vais donner un exemple. Donc, on a fait une campagne en 3 séances, qui est sur le, vous retrouvez tous les comptes rendus, hein, des playtests d'Inforenza sur le forum de Terres Étranges. Et donc, on a joué une campagne qui s'appelle Tre Città per Morire. Bon, je dis le nom de la campagne pour que vous retrouviez. Et en fait,
Pense qu'honnêtement, si tu épelles pas ce mot, personne va la retrouver. C'est
je mettrai le compte, le lien sur le, ce sera bien plus simple. Et donc, on joue 2 séances. Et bon, je sais que j'avais un perso qui se faisait souvent capturer par des ennemis qui étaient des sorciers. Et en fait, à un moment, je me récolte une souffrance en corbeau. Alors, corbeau, c'était un thème du théâtre, parce qu'en l'occurrence, il y a des corbeaux métamorphes qui nous menaient la vie dure dans la campagne. Et en fait, on en déduit qu'à un moment où je me suis fait capturer, j'ai été victime d'un envoûtement et que j'ai un corbeau dans le ventre, en fait. Qui va naître un jour à la Alien, en fait, en m'arrachant le ventre. Et ça a vraiment twisté la campagne, parce que du coup, mon personnage avait vraiment un truc compliqué à gérer, quoi. En plus de ça, il y avait un des autres PJ qui était lui-même un corbeau métamorphe. Et en fait, moi, j'étais d'idée, il faut me faire avorter d'une façon ou d'une autre, quoi. Je veux pas du tout... faire naître cette chose, quoi. Et lui disait, non, il est de ma race et tout, il faut absolument que sa croissance arrive à son terme et tout. Et ça a amené vraiment sur la 3e séance, ça a amené un dilemme qui a vraiment porté toute la séance.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que sur le long terme.
Pardon. Tu peux être surpris par les thèmes. Même quand on avait déjà 2 séances de jeu dans les pattes, et bam, là, le thème a apporté un twist énorme. Quoi.
D'accord, ok, je comprends mieux, parce que j'avais du mal. Jérôme.
Peut-être pour être plus précis sur ce que je veux dire par le thème, c'est que quand tu es dans ce que tu vas proposer dans la mécanique de résolution, dans le sacrifice, etc., tu es dans une logique de jeu de rôle. C'est-à-dire que tu es dans une logique où tu... Alors, jeu de rôle par opposition à story game, pour ceux qui font la distinction, c'est pas le cas de tout le monde. Tu es dans une logique où tu cherches à résoudre une situation ou à résoudre une situation au travers de ton personnage. Le dé de thème. Alors, le thème, c'est super intéressant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est super intéressant pour tous les jeux. Il n'y a pas de problème. Par contre, la difficulté que ça va t'amener, la contrainte que ça va t'amener d'un point de vue game design, ça va être une difficulté à raconter.
Et le joueur dans la position d'auteur, tu sais ce que tu veux dire, quoi.
Alors, excuse-moi, j'ai pas bien entendu.
Tu mets le joueur dans la position d'auteur.
C'est-à-dire que tu demandes plus au joueur d'interpréter son personnage, tu lui demandes d'être auteur au moment où il doit appliquer le thème. C'est ça que tu veux dire.
Voilà. Et alors, en combinant les deux, je pense qu'on arrive à faire des choses très bien. Enfin, ça, c'est ce qui a l'air de s'être passé sur la partie. Tu vois, il n'y a pas de problème. Je dis à l'air, encore une fois, à cause des réserves de tout à l'heure. Je pense que tout le monde s'est amusé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est pour ça que je me posais cette question sur la durée, parce que souvent, sur pas mal de jeux qui ne reposent que sur ce type de contrainte-là, c'est-à-dire changer le comment on raconte, tout en continuant à raconter et pas trop axé sur la résolution de problèmes, on a tendance à en faire le tour un peu plus vite, quoi.
Flavie, j'en profite pour te glisser une question, tes impressions sur la partie aussi.
Ouais, les deux étaient liés. C'était en réaction et alors moi personnellement, je suis pas fan de la version avec MJ parce que je trouve que c'est vraiment plus intéressant et pourtant Dieu sait que je préfère les jeux avec MJ généralement. Mais moi je me suis vraiment amusée avec la version en instance avec tout le monde autour de la table cet été où je trouvais qu'on avait qu'il y avait vraiment des choses qui arrivaient. Quand on a fini la partie, c'était la première fois où moi, en jouant à un jeu sans MJ, j'avais envie de refaire une deuxième partie après. D'habitude, un jeu sans MJ, je me fais chier. Soyons honnêtes. Hein. Ouais. Et très souvent, on finit la partie, bah, c'était très bien, c'était un one shot. Alors que au jeu qu'on a fait cet été, moi j'avais envie de continuer les personnages, il y avait des bonnes dynamiques autour de la table et du coup tout le monde avait envie de faire que on continue l'histoire de groupe ensemble. Alors qu'avec MJ, je trouve que du coup il y a moins d'attaches entre les personnages qui se créent parce que du coup on n'est pas obligé de s'impliquer dans les histoires des autres, c'est le MJ qui le fait.
Bah je pense que c'est pour ça que j'ai voulu proposer les deux modes.
Chacun
c'est au lecteur, enfin c'est au joueur
de
piocher.
Je trouve que la version avec MJ, je trouve amoindrit ton propos et appauvrit le jeu.
C'est intéressant que Flavie, qui d'habitude préfère le MJ, pour une Forenza préfère 100. C'est intéressant.
Ouais, parce que je trouve qu'on est obligé de s'intéresser aux histoires des autres et du coup, ce que là en fait d'habitude ce que nous on fait, là c'est le MJ qui le fait. Du coup, on reste un peu chacun avec sa fiche de personnage. Alors que pour le coup, moi qui vraiment aime bien les jeux avec MJ, là je préfère la version autre.
Si je puis me permettre, Flavie, je pense que c'est un biais d'analyse dû au fait que la partie était très courte et que. Mais je pense que si les personnages s'étaient étoffés, plus les personnages de Salvatore, etc., s'étaient étoffés, et plus c'est nous qui aurions pris l'initiative.
Je pense aussi qu'il n'y avait pas les instances.
Ouais.
Et que moi je joue avec les instances et pour le coup les instances c'est important.
D'accord. Alors, okay,
en plus, il me semble que souvent tu parles de la gestion du tour de parole, il me semble que c'est quelque chose qui est important pour toi. Et oui. C'est vrai que les instances ça cadre quand même beaucoup plus ce tour de parole.
Oui, puis c'est un truc tout bête mais t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de voir ce que les personnages autour de la table font avant toi. Du coup tu as le temps de réfléchir à ta réaction, à ce que tu vas faire et tu as le temps de te demander qu'est-ce que je vais faire pour lui ou pas.
Tandis que là, je te sollicitais en permanence. Jérôme propose un truc. Je vous sollicitais tout de suite pour savoir comment vous réagissez.
Le côté chaotique dessert, tu penses, le propos de...
Oui, parce qu'en fait, l'univers est déjà tellement chaotique que si tu rajoutes du chaos là-dessus, en fait, moi, je me perds.
Jérôme.
Alors, juste pour rebondir sur ce que dit Flavie. Alors, au départ, je pensais comme toi, Romaric, c'est-à-dire j'imaginais que c'était en fait surtout dû aux conditions dans lesquelles on a joué. Qui était compliqué. Après, c'est peut-être juste une question de goût. Moi, je sais que personnellement, quand je joue à des jeux avec une ambiance qui est un peu rugueuse, je veux pas avoir le temps de réfléchir. Je veux que, quand c'est des jeux qui sont de type avec MJ, etc., je veux qu'on me prenne par la main et je veux pas réfléchir à ce que fait mon perso. Je veux le jouer. Je veux pas qu'il y ait une médiation consciente, quoi. Je veux être immergé, en fait.
Oui, bien sûr. Je veux très bien.
Et je veux être à fond tout le temps. Enfin, à fond. J'aime bien ne pas avoir le temps de réfléchir et j'aime bien regretter les choix que j'ai fait.
D'accord, ok. Ouais.
Alors, c'est peut-être juste une question de goût sur ce coup-là, j'en sais rien.
Sur ce que t'aimes jouer. Nous, ici, je sais qu'à la Barreau, on est très comme toi. On aime bien jouer nos personnages sans avoir à réfléchir à ce qu'on va faire après.
Ouais, moi, j'aime bien l'immersion, mais c'est pour ça que je dis que d'habitude, bon, c'est vraiment pas. D'habitude, j'aime vraiment pas. D'habitude, vraiment, les jeux narratifs. Oui. La tendance blablabla là ça me gonfle.
On sait plus
voilà
comment parler.
Mais là pour le coup j'ai préféré, enfin voilà.
Alors tant qu'on en est aux réflexions, alors moi au niveau positif, exactement comme Jérôme, le setting, la façon de créer les persos, la dynamique de groupe, les thématiques liées au D12 et tout, je trouve ça bien. J'aime bien les D6 et les scores impliqués. Le fait que le 1 soit un sacrifice, que le 6 soit un beau succès et tout. J'aime bien la dynamique des D6 que t'as mise en place avec les souffrances et tout. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça me fait beaucoup penser à Polaris de Ben Lehman, qui est un jeu dans lequel on réalise au bout d'un certain moment, après avoir éprouvé les techniques longtemps, qu'en fait, on ne peut rien gagner sans perdre. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une spirale de la lose. On ne peut que perdre. Et le système nous donne l'impression qu'on peut gagner un conflit. Oui, on gagne un conflit, mais on en perd trois derrière parce que du coup, on a sacrifié tellement de choses pour ce conflit que...
Disons que techniquement, la probabilité de tout le temps gagner avec juste des puissances, elle est hyper rare.
Impossible.
Quoi. En plus, même dès que tu jettes plusieurs dés, ce que tu peux gagner avec une puissance et si t'as des souffrances avec, t'as des souffrances en plus. Donc, c'est rare de gagner, d'avoir des victoires vraiment complètes. Quoi.
Flavie.
C'est là que le jeu que j'ai fait cet été sans MJ était vraiment intéressant. C'est que du coup, comme t'as peu de chances de gagner et qu'il y a des alliances qui se créent à la table, ben on est plus amené à vraiment s'entraider. Ouais. Et le fait de s'entraider fait que tu gagnes, mais à une condition, c'est de te lier de plus en plus avec les personnages qui t'ont aidé.
D'accord.
Et du coup, nous, on a fini directement avec des histoires d'amour, des histoires de haine. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui a été très fort à la fin du jeu, en fait.
D'accord. Parce qu'il y a la circulation des dés aussi est faite pour ça. C'est-à-dire qu'une fois que le conflit est fait, tu peux refiler des dés aux autres, hein, ouais, pour dire peux... ah bah non, ça c'est une conséquence désagréable du conflit, c'est pas moi qui je vais pas l'appliquer sur moi, je vais te la donner à toi, quoi. Et par exemple ça arrivait assez souvent,
Ouais, le coup du sacrifice qu'on se repasse.
Mais du coup, comme c'est sans MJ, moi c'est en plus c'est surtout ça, Inforenza, parce que là c'est juste une version avec MJ, mais Inforenza c'est vraiment sans MJ normalement, hein, c'est juste des tours de parole.
Non, il y a deux versions, carton rouge, carton blanc.
Alors au départ, si tu veux, au tout départ, c'est vrai qu'il y avait quasiment que le mode carte rouge qui est un jeu. Il n'est pas un jeu sans MJ en fait. Il y a un MJ mais qui a vraiment uniquement un rôle d'animateur.
Oui, exactement.
D'ailleurs que tous les coups. De conseiller, voilà, un personnage, le mec il est bloqué pour écrire sa phrase, le MJ il lui file un coup de main, des fois il interprète des PNJ.
C'est voilà. Ce qu'on appelle un animateur.
Voilà, un animateur, quoi. On aurait pu jouer en mode carte rouge, vous aurez décrit la même scène de départ, par exemple.
Ah oui.
Merde, qu'est-ce que je veux dire?
Mais du coup, est-ce que c'est vraiment le mode auquel on vient de jouer, est-il voilà, vraiment très très important?
Alors,
dans le jeu,
ou est-ce Florenza en authentique, fait, c'est le carte blanc.
Il y a eu des moments où en fait carte je rouge. Jouais donc je le mode par défaut au départ c'était carte rouge. Voilà. Et en fait, il y a des moments où en tant que MJ, je prenais vraiment un contrôle important sur plein de choses. Et notamment avec des joueurs qui étaient emmerdés pour appliquer leur thème, qui savaient pas quelles conséquences pour avoir leur conflit, tout ça, quoi. Et donc c'était moi qui les aidais, quoi. On peut toujours faire ça en mode carte rouge, mais je me suis rendu compte que du coup, tant qu'à faire, on pouvait proposer, et ça je l'ai fait assez rapidement, on pouvait proposer aussi d'avoir un mode où là du coup le MJ il a vraiment la main, quoi. Et c'était aussi parce que je voulais permettre à ce qu'on puisse apprécier l'ambiance du jeu sans être obligé à tout prix de faire de la narration partagée très
partagée. Je voulais le rendre plus accessible au final.
Voilà. Parce que pour moi, c'était pas sacré. C'est surtout si tu veux, si le fait d'avoir partagé la narration, c'était vraiment crucial pour qu'on atteigne l'objectif du jeu, je l'aurais gardé. Mais pour moi, c'était pas crucial. C'était pas le propos principal du jeu.
Là, tu vois, Flavie, par exemple, ici, elle pense que ça l'était pour autant, mais bon. Bon, ça, c'est un débat. Moi, j'ai envie de demander aux gens qui peuvent aujourd'hui acheter Inforenza, achetez-le, testez les deux versions, et puis, voilà, faites-vous une idée en fonction aussi de vos affinités. Un autre point, moi, que j'ai trouvé négatif, c'est le fait qu'il n'y ait qu'une phrase au départ. Ah, je trouve ça dur, quoi. Moi, j'aurais bien lancé les joueurs sur trois phrases au début.
Ouais, c'est trois points
de vie. Ça nous arrive de faire des créations à trois phrases.
Parce que une phrase, ça devient caricatural.
Surtout en mode carte blanche.
Tu peux pas lancer le dé si t'as pas une phrase. Donc, du coup, en fait, t'es obligé de torturer ta phrase.
Je vais nuancer ça. Bon, c'est pareil, toujours en manque de temps. En fait, il y a une règle qui permet, si tu veux faire un conflit et que t'as pas de phrase, t'as le droit à un dé unique. Ça, c'était surtout pour éviter les problèmes de positionnement. Parce qu'en fait, centrer les conflits sur les phrases, ça posait des problèmes de positionnement. C'est-à-dire que tu pouvais pas demander un conflit si t'avais aucune phrase en rapport.
D'accord.
Alors, je veux toujours l'éviter, mais je vais quand même, la plupart des cas, mais je veux quand même le permettre, si vraiment ça coince. Parce que sinon, il y a un problème de positionnement dans le jeu.
D'accord. Jérôme voulait intervenir
sur le cas des phrases. Moi, j'étais très surpris, mais c'est encore peut-être lié aux conditions, parce qu'à aucun moment on a dit de façon explicite les phrases qu'on avait. Ouais. On a expliqué ce qu'on voulait mettre, mais à aucun moment on les a lues. C'est peut-être totalement lié aux conséquences. Aux circonstances, encore une fois.
En fait, la base préconise de lire les phrases.
Ça rejoint pas mal la logique des aspects qu'on trouve dans d'autres jeux. Ouais. Mais moi, j'aime bien, par exemple, que dans les aspects, ça peut être des phrases que pourrait dire le personnage, en fait.
Ouais. En fait, tu peux le faire, la base le préconise même, d'ailleurs, normalement, à chaque fois que tu utilises une phrase, tu dois la dire à haute voix. Mais là, il y a un biais de maîtrise, c'est-à-dire que j'étais pressé, donc j'ai largement passé outre. Je vous ai fait confiance, j'avais quand même une vague idée de ce que vous aviez mis comme phrase, donc c'était un biais de maîtrise.
Tout à fait. On l'a bien dit, ce qu'on mettait, enfin, en quoi elle consistait, par contre, on l'a pas lu.
Ouais, c'est que tu disais pas à la lettre, ouais, en effet, ouais.
Ouais, d'accord.
Donc, Et le fait de pas dire les phrases pour toi, Jérôme, c'est un problème parce que du coup, c'est pas. Moi, je trouve que ça représente un problème dans la mesure où tu ne dois pas te justifier sur son utilisation au cours de la scène. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, la phrase est moins impliquante ou moins, je sais pas comment dire, elle est moins gravée dans la scène. Moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que du coup, comme t'en as qu'une au départ, t'es obligé de l'utiliser. Alors du coup, tu la tords un peu pour voilà, tu lui donnes pas vraiment une signification.
Et ça, c'est un biais qui est assez rapidement rattrapé, oui, parce que tu gagnes des phrases.
Voilà, très rapidement.
En campagne, tu peux facilement atteindre. En fait, tu peux aller jusqu'à 12 phrases. Bon, quand t'arrives à 12 phrases, ton personnage est éliminé et devient une légende.
Ouais. C'est intéressant, ça. Donc, ça veut dire que tu meurs du fait de plus en avoir et du fait d'en avoir de trop.
Voilà, exactement. Et donc, c'est en fait, du coup, t'es un jeu où tu pexes tout le temps, parce qu'en gagnant des phrases, en quelque sorte, c'est comme si tu prenais du pex.
Ouais.
Mais si tu pexes de trop, c'est un peu comme mon inspiration, c'était les vampires qui pouvaient atteindre le Golconde.
Ouais.
Quand ils avaient, bon, le truc qui arrive jamais, évidemment, quand ils avaient, je sais plus combien en humanité, ils atteignaient le Golconde, tu pouvais plus les jouer, parce que c'était devenu des. Mais 100, quoi.
10, ouais. Mais c'est, je pense aussi qu'il y a autre chose, c'est que c'est dû au fait que sinon le personnage il devient caricatural. Non, s'il y a trop de souffrance, s'il y a trop de. C'est pas ça, c'est pas pour ça que t'as fait ça. T'as déjà vu un personnage aller jusqu'à ce niveau-là ou pas?
Ouais, j'ai déjà. Bah, en fait, j'ai déjà joué un personnage comme ça. Ça arrive qu'en campagne. Hein. Non, je pense que l'intérêt c'était vraiment cette idée du Golconde.
D'accord. Okay.
Et puis au fait de faire, ah oui, là, en fait, du coup, si tu joues, si tu es attaché à ton personnage, tu dis ok, si je le monte jusqu'à 12 phrases, il aura une fin magnifique, mais je vais plus pouvoir le jouer. Et donc j'avais un personnage qui est arrivé jusqu'à 11 phrases. Et là, à ce moment-là, j'ai fait ok, bon bah du coup, dès qu'il y avait des dés de sacrifice, donnez-les-moi, filez-moi des dés de sacrifice pour que j'ai dégonflé mon perso. Bah du coup. Le perso en fait qui était vraiment devenu très puissant a connu une sorte de descente aux enfers qui était vraiment intéressante quoi.
Tu peux nous parler rapidement parce que là il commence à être l'heure que tu rentres je crois. Est-ce que tu peux nous parler rapidement
on a encore 20 minutes.
De tes méthodes de diffusion de ce jeu. À moins que Jérôme t'as d'autres commentaires à faire sur la partie en règle générale.
Non, moi comme je disais des points de questionnement qui ont déjà été évoqués.
Ouais.
Ce qui est très positif pour moi c'est... Les questions, je sais pas ce que ça va donner. Je suis curieux de le lire, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux après une partie, hein, faut être très honnête.
Il est déjà dans ta boîte mail.
Alors, mais peut-être de prendre le temps de le lire, du coup. Et de voir, en fait, les points sur lesquels j'ai pas eu des réponses pendant la partie ou je les ai pas vus, d'aller les chercher, quoi.
D'accord.
Donc, du coup, tu vas le mettre à dispo comment, à part en l'envoyant dans ma boîte mail?
Alors, la méthode de diffusion.
Alors, c'est intéressant.
En fait, il y aura trois façons. Il sera dispo en impression à la demande sur Lulu.
Oui.
Bon, à l'heure où sort ce podcast, il doit déjà être dispo, en fait. Hein.
Oui.
Le deuxième mode, il sera en PDF à prix libre. Donc, c'est-à-dire, vous m'envoyez un mail. Ou un virement PayPal ou chèque, vous mettez ce que vous voulez, de 0 à 10 000 euros. alors quand je dis PDF, PDF en prix libre, c'est le PDF illustré. Parce qu'il y a le PDF, juste le texte, il est dispo gratuitement, il est en licence Creative Commons. Et le quatrième mode de diffusion, je vais aussi le proposer en livre artisanal. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est en prix libre, vous donnez ce que vous voulez. Et en fait, j'imprime le livre moi-même avec mon imprimante. Bon, j'ai une grosse imprimante semi-pro, quoi. Hein. Et je le relis au fil à coudre.
Alors, il faut savoir que c'est un objet unique. Puisqu'il n'y en a qu'un seul comme ça. Moi, j'ai la chance. Je tiens à me craquer dès le début. Enfin,
t'as de la
chance. J'ai la chance d'avoir le premier imprimé de la sorte avec des espèces de bouts de blé qui ont été collés dessus et tout. Enfin, voilà. Le but, c'est de faire des objets comme ça uniques pour chaque personne.
Ouais, chaque livre ne sera unique, ne serait-ce que parce qu'entre chaque livre, j'espère bien améliorer mes techniques de fabrication.
Ouais. Alors moi, le premier, c'est ce que tu disais, c'est que du coup, t'avais fait toutes les erreurs possibles.
Oui, alors sur le Romaric a entre les mains le premier exemplaire qui est sorti où j'ai fait toutes les erreurs possibles, notamment la couverture est à l'envers.
Mais c'est intéressant quand même ce mode de diffusion, c'est-à-dire de faire un exemplaire unique pour chaque personne finalement qui va décider de te l'acheter comme ça. Et comment tu fais si 100 personnes décident de te l'acheter comme ça? Tu vas pouvoir tenir le coup,
bon,
quoi.
Déjà si la demande
c'est crédible, hein. 100 personnes c'est crédible.
Bah ça dépend déjà à quel rythme. Si c'est 100 personnes d'un coup, si la demande excède ce que je peux offrir, soit je préciserai aux gens qu'il y a un délai. Je pense que dès le départ, je vais annoncer de toute façon qu'il y aura un délai minimum d'un mois. Hein. Ouais. Alors du coup, on n'est vraiment pas dans l'immédiateté. Hein. Il y aura peut-être une liste d'attente, ou peut-être que si vraiment la demande excède l'offre, eh bien je ferai des offres limitées en disant que je peux, c'est vrai que dans la première année, si je peux faire 100 livres par an, ce sera à mon avis le maximum de ma capacité de production. Mmh. Surtout que en plus de mon activité d'earlier, je vais quand même continuer à écrire des jeux. J'ai prévu de sortir des autres jeux et des autres suppléments cette année. L'idée c'est de proposer. En fait, il y a deux choses, en fait. Il y a l'idée de servir l'œuvre et l'idée de servir l'auteur. Je considère que les modèles économiques tels qu'ils existent actuellement, c'est-à-dire l'édition classique ou même l'impression à la demande,
Pika.
Ce sont des modèles qui servent l'œuvre. Elles permettent à l'œuvre d'être diffusée le plus largement possible, à un prix accessible pour les joueurs. Mais techniquement, ça profite très peu aux auteurs parce que c'est des modèles économiques avec beaucoup d'intermédiaires, l'imprimeur, des fois l'éditeur, le distributeur, la boutique. Et donc, on a une marge pour l'auteur qui est ridicule. Donc si l'auteur, il veut vivre de son activité, il est condamné en fait à vendre à grande échelle.
Allez.
Et donc, bon, je veux quand même proposer un système qui soutienne l'œuvre, parce que je veux que mon œuvre mon jeu puisse être accessible, que les gens qui ont envie d'y jouer puissent le faire. Mmh. C'est pour ça qu'il y a le PDF à prix libre, il y a l'impression à la demande, et il y a la version texte qui est gratuite. Mmh. Je veux par contre proposer quelque chose de différent pour ceux qui, en plus de vouloir le jeu, veulent aussi peut-être quelque chose qui soit un peu unique, un peu collector. Et veulent aussi apporter un soutien spécial à l'auteur. C'est-à-dire qu'en proposant le PDF à prix libre et le livre artisanal à prix libre, je laisse le soin en fait à l'acheteur, s'il veut m'apporter un soutien, de me soutenir en tant qu'auteur, quoi.
Mais tu vois, ce
qui permettre dégager éventuellement un revenu de mon activité d'auteur, quoi.
D'accord. Mais il faut bien dire que ces œuvres que tu dis collector, c'est pas ce qu'on appelle du collector d'habitude. C'est-à-dire que là, c'est relié au fil, il y a un côté roots avec les blés collés dessus. Enfin,
oui,
faut
hyper
pas s'attendre
roots,
une version collector.
Dans un premier temps, vous attendez pas, ce sera artisanal, hein, mais vraiment artisanal au début dans le sens post-apocalyptique du terme.
Génial. Ok. Voilà, on a fait le tour. C'était difficile de juger une Florenza comme ça après seulement une heure de jeu. Nous,
si je peux me permettre, je pense qu'en plus c'est un jeu. Enfin, je l'ai voulu tel quel en tout cas. Je pense que c'est un jeu qui a une courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que t'apprends à jouer au fur et à mesure, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'en plus j'ai chargé la mule parce que j'ai mis dès le départ une règle avancée.
D'accord. Ouais. Ok, donc tu penses que faut prendre le temps aussi avec les dés et tout ça, de bien comprendre comment ça marche, le sacrifice, passer les dés pour se faire sacrifier quelqu'un d'autre, la dynamique sociale autour.
Tranquillou. Après, quand j'ai fait des playtests, il me semble que quand on avait joué 3-4 heures, il me semble qu'à la fin de la séance, les joueurs étaient au fait du système. Ouais. Quoi,
Moi, j'ai pas l'impression que ce soit si compliqué que ça à saisir.
Il y a des subtilités, je suis prêt à le reconnaître. Ouais, ouais. En fait, il y a une base simple, mais avec beaucoup de combinatoires.
D'accord, ok. Non, mais j'aime bien le côté cash du jeu. Je trouve qu'il y a un côté cash dans ce jeu. C'est-à-dire que les scènes, c'est cash, c'est-à-dire que c'est violent tout de suite.
Voilà, on joue maintenant. L'idée, c'est vraiment.
Story now.
En fait, tu crées le fait de créer son personnage et de jouer tout de suite. C'était vraiment c'est ça quoi, c'était surtout moins de préparation, plus de jeu, quoi.
D'accord. Jérôme, tu voulais dire quelque chose en conclusion ? Tu voulais nous tracher parce que nous, on faisait des choses au service de l'auteur et pas au service de l'œuvre, c'est ça ?
Je pense que si tu veux parler de ça, va vraiment falloir faire un podcast.
Ah oui. Ah, je suis bien d'accord avec toi.
Écoute, moi, en tout cas, la démarche de l'auteur, mais enfin, il est au courant. Hein, elle me plaît pas mal et si elle veut me soutenir, ce sera avec plaisir, quoi.
Eh ben, c'est cool.
Et pour le coup, enfin, très sincèrement, moi, c'est plus l'auteur que l'œuvre que j'ai envie de soutenir. Parce que c'est pas le seul jeu que tu fais et que, enfin, qu'il y a un vrai truc derrière, quoi.
Moi, je trouve qu'il y a une patte, Thomas Munier. Tu trouves pas, il y a une patte, ça a l'air sale. Moi, quand je prends les jeux de Thomas, il y a tout de suite, une fois, dans ma vie, j'ai visité un complexe de farine animale à Rennes désaffecté. Et dedans, non, mais attends, tu vas voir, tu rigoles, mais tu vas voir, ça te concerne directement. Dedans, il y avait des petites œuvres d'art qui avaient été déposées dans le complexe affecté, genre le bureau du boucher, le vélo du boulanger, des trucs comme ça. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait exactement, mais il y avait des scènes comme des dioramas qui avaient été faites dans le truc, des pendus par exemple qui étaient dans certaines pièces. Et ça, et ben, c'était sale. Il y avait un côté glauque quand tu rentrais là-dedans dans ce truc post-apocalyptique, là, cet endroit désaffecté. Et ben moi, quand j'ouvre un jeu de Thomas Munier, c'est à ce complexe que je pense et c'est à ça que je pense. Et j'ai appris il y a peu ce que c'était que l'art outsider. Et en fait, je ne le savais pas, mais ce que j'ai vu dans ce complexe et qui me fait sans arrêt penser à toi, c'est ce qu'on appelle de l'art outsider. Mais j'imagine que tu le savais, Pika.
Alors, je vais pas me cacher de savoir ce que c'est l'art outsider, puisque mon blog s'appelle voilà. Outsider. Ça vient de outsider, en fait, un petit peu comme synonyme d'indépendant. Ça vient aussi de l'art outsider. Pour faire simple, on appelle ça aussi l'art brut ou l'art marginal. C'est un art qui est produit aux marges du milieu culturel dominant par des gens qui n'y ont pas forcément accès ou qui le rejettent, quoi. Alors je peux pas me prétendre outsider parce qu'il faut vraiment être un ermite pour l'être. Mais disons que j'ai toujours quand même apprécié de créer quelque chose dans les marges, quoi. L'idée d'Inforenza et puis de tout ce que je fais en général, c'est de créer effectivement quelque chose qui soit dans les marges. Après, j'espère que c'est réussi, je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire. Par contre, j'ai vraiment fait très attention à ce que ce soit un jeu fonctionnel, que ce soit pas une blague, en fait, et que ce soit pas amateur. Donc c'est vrai que c'est bizarre, c'est déglingué, mais l'idée c'est que ça fonctionne quand même. Et j'ai vraiment mis, on va dire, quelques neurones pour que ça marche. Après, c'est pas à moi de vous dire si ça fonctionne. C'est pas mon rôle, mais disons que je peux au moins vous promettre que j'ai essayé.
Ok. Eh bien, voilà. Tout ce qu'on pouvait vous dire déjà sur le jeu Inflorenza de Thomas Munier à l'heure actuelle. Vous devez pouvoir en disposer sur Lulu, sur le site de l'auteur. Vous pouvez lui demander de vous faire le jeu avec ses petites mains, etc. Vous savez tout. Vous pouvez avoir le PDF gratuitement, sans illustration, le PDF avec un don de votre choix.
Ouais, PDF illustré. Hein,
voilà, illustré. Donc, vous savez tout. Brand, Pika, Flavie, merci. On va laisser nos auditeurs là-dessus. Nous, on vous laisse. On vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Et puis, on vous dit, jouez bien, portez-vous bien. Salut.
Merci à vous. À bientôt. Salut.